Bonjour, assalam alaikum, shalom, nous sommes mardi 26 septembre 2023, deuxième jour de la rentrée pour l'année scolaire 2023-2024. Nous allons en parler, comme parler de culture et art, c'est mardi, vous vous y attendez déjà. Et puis nous allons nous transporter, ou bien nous allons nous annoncer dans les jardins de l'hôtel Sarakawa, qui va abriter le jeudi prochain une journée porte ouverte des ONG internationales opérant au Togo qui s'ouvre à nous. De quoi s'agira-t-il? Qu'est-ce qui sera fait? Nous allons également vous en parler, comme en politique, ce que nous avons évoqué quelques jours et qui revient aujourd'hui, à savoir il y a quelques temps, quelques semaines, la CENI nous pressait d'aller au recensement. Le gouvernement avait annoncé des élections législatives et régionales. Et puis, depuis quelque temps, c'est silence radio. Qu'est-ce qui se passe? Sans avoir la réponse de qui de droit, nous avons quand même les interrogations de la presse. Voilà en quelque sorte le menu de cette émission. Mais avant de découvrir les invités, honorons cette tradition de démarrer l'émission par une pensée du jour. Et aujourd'hui, le sage dit ceci: la confiance repose sur le fait de dire la vérité et non de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Encore une fois, la confiance repose sur le fait de dire la vérité et non de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. Dans ce cas-là, on risquerait de vous taxer de démagogue, n'est-ce pas, Isidore Sassou Atialo Akolo?
Oui, il faut que nous, les journalistes, nous fassions mienne cette citation. Et nous fassions notre plutôt cette citation. Parce que c'est ce qu'il nous a toujours recommandé. Les gens confrontent l'intérêt public à l'intérêt du public. Mm-hmm. Il faut servir l'intérêt public et non l'intérêt du public. Il y a une nuance. L'intérêt du public, c'est que tu veux dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. L'intérêt public, c'est que tu parles pour la majorité des gens et tu défends leur cause. C'est en cela que tout journaliste doit s'approprier cette pensée et selon laquelle faut pas l'intégrité, c'est plutôt ce que vous avez dit tout de suite là.
La confiance.
La confiance, c'est de dire ce que vous pensez et non de dire ce que les gens veulent entendre.
Merci Isido. En tout cas, tout petitement, nous sentons grands par la confiance que vous nous manifestez. Vous, les fidèles auditeurs du Club La Presse, vous êtes un certain nombre. Que ce soit sur les antennes de Canal FM à Lomé, ses environs ici, mais un peu partout au Togo, dans le sud-est, sur les ondes de Radio Lumière à Nero, au centre plateau avec Radio La Paix à Takpamé, au centre du Togo avec Radio Centrale FM à Sokoné, dans l'angle nord-ouest avec Radio Daoul qui le relaie à Bassa, et puis vers le nord, Radio Sama FM à Baga, Niamtougou, et puis dans l'extrême, c'est Radio Courtoisie qui nous relaie à Dapoy. C'est pas fini. Dans le monde entier, les radios numériques comme Ebon Radio, Radio Le Bénin, la chaîne YouTube et d'autres applications de la technologie qui nous mettent en communion avec vous sur tous les continents. Nous en sommes fiers et nous ferons toujours l'effort de continuer à mériter votre confiance.
Ça, si tu permets,
Isidore,
cette citation peut faire objet d'une dissertation. Hein.
Oui, notamment pour les élèves de terminale qui viennent de rentrer en classe.
Oui,
merci pour vos références au studio avec les techniciens qui nous accompagnent et qui réalisent l'émission. Était Kossi Datevi Thomas qui met l'émission en ligne pendant que son alter ego Kojo Gerald Akucha, c'est lui qui s'occupe de la technologie par toutes ces applications. Comme pour dire que Sassou, nous faisons l'effort de nous réconcilier avec nous-mêmes en mettant toujours en exergue nos prénoms du pays.
Ah oui, c'est très important. Yadema l'a voulu imposer, mais malheureusement, il n'y avait pas une loi. Et là où on parlait de recours à l'authenticité,
oui.
Et des gens ont changé leur nom, mais au fait, c'était notre identité.
C'est ça. Mais tu as dit, hein, Yadema nous l'avait imposé.
Oui.
Et quand le vent tournait, nous avons abandonné.
Ah,
s'il
oui.
nous avait expliqué et que nous avions compris, nous aurions gardé. En tout cas, moi, je garde toujours mes prénoms du pays,
oui.
Kodjo, pour dire que je suis garçon né lundi et tété parce que je suis premier garçon de mes parents.
Adangbe, il faut la préciser.
Merci, oui. Je ne savais pas que tu savais. Eh bien, je l'annonçais tantôt.
Mais à l'époque, qu'est-ce qui s'était passé? C'était du mimétisme de la part du président de la République qui voulait s'inspirer de l'expérience zaïroise.
Avec Mobutu.
Avec Mobutu, avec les Abakos. Et
merci. Revenons donc au sujet. Je l'annonçais tantôt, dans 48 heures. Va s'ouvrir à l'hôtel Sarakawa à Lomé ici une journée porte ouverte, une journée au cours de laquelle vous pourrez entrer à l'hôtel Sarakawa sans payer, mais c'est pour aller assister à des manifestations qu'organise l'ensemble, sinon la très grande majorité des organisations non gouvernementales internationales opérant au Togo, qui se sont regroupés au sein du réseau des ONG internationales du Togo, Rongito, lequel réseau a dépêché dans ce studio notre ami Komivi Espoir d'Atidi. Bonjour Komivi.
Bonjour Sass.
Même si on ne te connaît pas beaucoup dans tes bureaux comme Komivi, on te connaît plutôt comme Espoir.
Espoir.
Eh bien, tes collègues vont s'habituer progressivement à Komivi et Mokpopo.
Oui, exact.
Eh bien, tu es chef de mission à l'ONG internationale Togo-Bénin. Chef de mission Togo-Bénin de l'ONG, la chaîne de l'espoir, n'est-ce pas?
Exactement.
Et tu es dépêché dans ce studio au nom du Rongito pour nous parler de cette journée porte ouverte.
Exactement.
Merci alors, Komivi et Mokpopo d'Atidi. Votre institution, la chaîne de l'espoir, avec l'ensemble des ONG internationales opérant au Togo, vous organisez une journée porte ouverte, je l'ai dit, ce sera le jeudi prochain. Mais avant d'en venir à la journée porte ouverte, voulez-vous nous parler un peu de votre réseau? Pourquoi l'ensemble des ONG internationales opérant au Togo ont senti le besoin de se regrouper dans ce réseau?
Merci beaucoup, Sass. C'est un plaisir pour moi de représenter ce matin Rongito, qui est le réseau des ONG internationales au Togo, en abrégé Rongito, et qui est une plateforme d'échange de 25 ONG internationales opérant sur le territoire togolais dans le développement durable inclusif et abordant les aspects de la protection des enfants et l'amélioration des conditions de vie des populations les plus vulnérables. Donc, les domaines d'intervention, les aspects dont je venais de parler, portent sur les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'agriculture, de l'environnement, les questions sur l'employabilité des jeunes et sur le développement des compétences de vie courante des jeunes. Bref, tous les domaines de développement social et économique donc de notre pays. Et donc, comme je venais de le dire tantôt, ce réseau est créé en 2018 et la raison qui a poussé les ONG à se mettre ensemble, d'abord, c'est pour se faire connaître. Mm-hmm. Se faire connaître et essayer donc de créer une synergie d'intervention par rapport à toutes ces ONG et aussi essayer d'offrir à ses membres des opportunités de renforcement de capacités, mais aussi des opportunités de partenariat thématique leur permettant de pouvoir intervenir de façon efficace et efficiente au niveau de notre pays.
Merci, comme vie, mon popo, espoir d'Atidi. Vous qui êtes chef de mission Togo-Bénin à l'ONG internationale Chaîne de l'Espoir, délégué dans cette émission par le réseau Rongito. Comme vous l'avez dit, pour vous faire connaître, c'est l'un de vos objectifs. C'est dans ce sens que vous organisez cette journée porte ouverte, que vous placez même sous le haut patronage de Monsieur le Président de la République.
Exactement.
Vous visez vraiment haut.
Oui. Nous pensons quand même que par rapport à l'accompagnement que nous faisons vraiment au gouvernement, c'est important que ça soit sous le patronage du président de la République. Et donc, le thème même, c'est la contribution des ONG internationales à la feuille de route gouvernementale dans le contexte actuel.
Merci. Alors, ce sera quand la journée porte ouverte?
La journée est prévue pour le jeudi prochain, le 28, à l'hôtel Sarakawa.
Alors, pourquoi cette journée au cours de laquelle vous, les 25 membres du Rongito, vous allez vous regrouper en un endroit et inviter tout le public togolais à venir vous découvrir?
Oui, merci beaucoup. La raison pour laquelle nous avons pensé nous retrouver à l'hôtel Sarakawa, c'est que Rongito est une ONG, est un réseau qui intervient dans le pays à travers ses membres dans tout le territoire togolais, mais qui n'est pas connu. Donc, la journée porte ouverte est une occasion pour rendre visible ce réseau et montrer un peu par rapport à tout ce que nous faisons dans tous les domaines de développement de ce pays, quelle est la contribution, quel est l'impact de nos interventions sur la communauté, sur la population, sur les couches, les cibles avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est l'objectif principal de cette rencontre.
Et je découvre qu'il y aura naturellement un protocole d'ouverture avec le chef de l'État ou son représentant. Attendons jeudi pour savoir la personnalité qui sera à vos côtés. Après ce cérémonial, qu'est-ce qui sera fait concrètement au cours de la journée?
Oui, par rapport à cette journée, la journée est repartie en deux phases. Il y a donc une session d'ouverture, comme vous venez de le dire. Donc, c'est à cette session, il y aura donc les invités que nous avons programmés pour la circonstance. Mais aussi, au cours de cette matinée, il y aura un panel, comme je venais de le dire tantôt, qui va permettre de développer un peu la réflexion sur la contribution des ONG sur la condition des ONG internationales par rapport à la feuille de route gouvernementale au niveau donc du Togo. Et après cela, il y aura le vernissage donc des stands, donc il y aura une visite des stands. Chaque ONG intervenant, donc les 25 membres vont présenter, ils auront des stands qui seront visités et au niveau de ces stands, nous présenterons ce que nous faisons, comment nous le faisons, quel impact nous avons. Et après cette première partie qui se passera dans la matinée, à partir de 13h, c'est les activités pour le grand public. Donc, c'est des activités où le grand public est invité pour passer au niveau donc, de l'hôtel Sarakawa, comme tu l'as dit tantôt dans ton introduction, pour voir un peu ce qu'est Rongito, qu'est-ce que Rongito fait, quelle est notre approche, les approches d'intervention des différentes organisations membres de ce réseau.
Merci. Chaque ONG internationale membre du Rongito aura son stand qu'on pourra visiter, leur poser des questions, chercher à savoir qui ils sont, ce qu'ils font et comment ils le font. Et après ce panel-là, il y a également deux tables rondes. La première intitulée « La jeunesse, éducation, employabilité, leadership pour le développement » et la seconde « Financement pour le développement au Togo, atouts et défis ». Eh bien, mon papa, comme il vit, quel est le message du Rongito à l'endroit de tous ceux qui écoutent cette émission à 24 heures de votre journée porte ouverte?
Ok. À tout le public, nous voudrons juste leur dire que Rongito est un réseau bien structuré qui opère au Togo et nous les invitons massivement à passer le jeudi à partir de 13h au niveau de l'hôtel Sarakawa pour mieux nous découvrir. Parce que nous pensons que plus tu connais quelqu'un, plus tu peux l'approcher. Donc, ce serait une opportunité donc, pour le grand public de mieux nous découvrir et de nous approcher aux besoins par rapport aux interventions que nous faisons au niveau du terrain.
Merci. Je crois savoir que vous attendez lors de cette journée porte
oui,
ouverte
il y a des membres du gouvernement. Exactement. Oui. Il y a les membres du gouvernement. Il y a les autorités donc politiques et administratives. Nous attendons également les ambassades, les organisations de la société civile. Nous attendons également les ONG locales. Et nous n'oublions pas nos partenaires techniques et financiers et les systèmes des Nations Unies qui sont des partenaires avec qui nous travaillons au niveau des ONG.
Et vous devez attendre aussi et surtout les communes.
Ah, les communes, ça, on ne les oublie pas, et aussi toute la population en tout cas.
Merci beaucoup, toute la population, dont un certain Montrosor Dieudonné Korlakna. Bonjour.
Bonjour très cher SAS, bonjour fidèles auditrices, auditeurs de Radio Canal FM.
Merci, c'est le grand patron du journal Togo Matin qui nous a rejoint avec Isidore Akolo. Alors je ne sais pas, quand vous avez écouté Mon Popo comme il vit, d'Atidi sur le Rongito et cette journée porte ouverte qui aura lieu dans 48 heures, je ne sais pas si l'un ou l'autre a ou ont une question, voire un commentaire.
Oui, une question d'abord par ton introduction. Moi, je pensais qu'il s'agissait de toutes les ONG internationales qui opèrent au Togo.
Exactement.
Mais non, dans votre développement, j'ai vu que votre cible est plus vers la jeunesse. Ah oui, peut-être je me suis trompé.
Non,
tu as parlé du développement de la jeunesse. Mais je me pose un peu de questions, beaucoup de questions. Peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais est-ce que c'est. Il y a d'autres domaines dans lesquels des ONG effectuent leur. Découlent leur programme, leur action,
développent leur programme de l'internet.
Est-ce que toutes ces ONG se retrouvent dans Rongito?
Oui. Comme je venais de le dire, Rongito, c'est un réseau d'ONG qui reçoit à chaque fois de nouveaux membres, une fois que nous avons une ONG internationale qui arrive au Togo et qui voudrait, et qui connaît, qui arrive à prendre connaissance de nos statuts et de nos règlements, qui voudrait s'adhérer, ils adhèrent. Et à ce jour, nous avons 25 membres. Et je peux dire que le nombre de membres a évolué avec le temps, depuis 2018. Et par rapport au domaine d'intervention, ce n'est pas que la jeunesse. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai dit nous intervenons sur les aspects de protection, mais aussi sur des aspects d'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable. Et quand nous parlons de la population vulnérable, ce n'est pas que la jeunesse. Nous avons les femmes, nous avons la jeunesse, nous avons les enfants. Et donc, comme je l'avais dit, nous intervenons sur les questions de l'éducation, les questions de la santé, de l'agriculture, les questions sur l'environnement. Et tous ces aspects, quand nous les prenons, nous comprenons que c'est une cible multiforme.
Merci. Je rappelle juste que selon l'élément un document que j'ai pu avoir, à cette journée porte ouverte, Rongito attend les ministères et leurs directions techniques, les ambassades et consulats, les délégations notamment de l'Union européenne au Togo, la coopération bilatérale, notamment le GIZ, de l'AFD, la KFW, le système des Nations Unies avec toutes les antennes, les banques, c'est important, puisqu'il faut financer, comme la BOAD, la BAD, la BDC, Aura Bank, EcoBank, UTB et BOA, sans faire de jaloux, mais également représentation de la CDAO, et puis les réseaux d'associations et ONG locales, les jeunes, le grand public, et les médias. Oui, bonjour.
Monsieur Mokopo, je suis bien curieux de savoir quel est l'état des relations entre les ONG internationales œuvrant au Togo aujourd'hui et le gouvernement togolais, dans la mesure où, il y a quelques mois, une décision du gouvernement a créé une certaine friction entre vous et le gouvernement. Et si mes informations sont bonnes, il y a eu des réunions entre le ministère de l'administration territoriale et les ONG. Quelles sont vos relations, l'état de vos relations aujourd'hui?
Merci beaucoup. Je dirais que les relations entre Rongito et le gouvernement sont au beau fixe. Et par rapport au décret qui est sorti, effectivement, Rongito a pris connaissance et nous avons fait des réunions avec les ministères en charge pour mieux comprendre le contenu et voir un peu les dispositions que les ONG internationales doivent prendre. Et par rapport à ça, je peux affirmer que les choses évoluent par rapport à ce décret, tant bien même il y a des points sur lesquels nous attendons que des éclaircissements nous soient faits pour vraiment avancer comme cela se doit.
Merci. Bon, je voulais encore préciser une chose. Quel est le degré de collaboration entre vous et les ONG locales, nationales, et qui sont pratiquement vos concurrents?
Merci beaucoup. Je dirais que les ONG locales, nationales, c'est-à-dire les ONG locales, nous avons des relations, je peux dire de bonnes relations avec ces ONG, d'autant plus que quand nous prenons un peu beaucoup d'ONG internationales, nous sommes dans l'approche faire-faire. Et cette approche faire-faire fait que nous sommes en partenariat avec des ONG locales avec qui nous postulons pour des projets et nous recevons des financements. Donc, il y a un système de transfert de compétences des ONG internationales vers les ONG locales. Naturellement, il y a des possibilités pour des ONG locales aussi de postuler pour peut-être des mêmes appels d'offres que les ONG internationales, mais très souvent, les ONG internationales vont à la demande de fonds, à la demande pour postuler pour des projets, nous y allons ensemble. Je peux juste donner un peu l'exemple de la chaîne de l'espoir où nous sommes actuellement avec trois ONG locales avec qui nous avons un financement de l'AFD. Et c'est pareil pour plein international, d'autres ONG qui travaillent avec des ONG locales.
Oui, ce que vous dites là, je m'attends de préparer à la question.
Quelques secondes. Oui. Souvent, dans ces rapports, les ONG nationales deviennent des sous-traitants. Oui, c'est souvent ce qui se passe.
Non, c'est pas des sous-traitants, parce que c'est des projets qui sont montés avec ces ONG-là, et chaque
vous êtes demandeur premier. Vous êtes demandeur premier.
Merci, Isidore, tu permets. Hein, c'est juste pour annoncer la journée porte ouverte. Hein, toute la journée,
c'est vous qui avez la manne et vous dispatchez.
Sera dédié donc à en savoir davantage. Nous allons évoluer avec le deuxième sujet, la rentrée scolaire. Je rappelle que sur le coup de 12 heures, nous allons marquer notre pause et après, vous pourrez entrer en ligne sur les deux numéros, le 22-21-33-74 ou le 91-36-63-75. Et il vous sera loisible de poser des questions, d'émettre vos avis sous forme de commentaires sur l'un ou l'autre sujet inscrit au menu aujourd'hui. Après le rongito, allons à la rentrée scolaire. Et là, le médium paru aujourd'hui écrit que autorités et parents sont sereins pour cette rentrée. Alors, comme il y a au moins un parent d'élève ici, voire même deux, Montosso est parent d'élève, comme il vit toi aussi.
Oui, bien sûr.
Eh bien, vous me direz si vous êtes vraiment serein, comme comme le gouvernement. Mais Vision d'Afrique, lui aussi écrit à la page 4, rentrée scolaire 2023-2024, les ministres Dodi Kokoroko, Myriam Dossou et Kokou Odin ont constaté l'effectivité de la reprise des classes ici dans le Grand Lomé. Mais l'Union, lui, revient sur ce que nous avons certainement vu hier sur la TVT. Quand de Lomé à Dapan, c'est toute une armada de commissaires de gouvernement, de ministres qui ont été envoyés sur le terrain. Alors, Vision d'Afrique nous parle des trois ministres Kokoroko, Myriam Dossou et Odin, ici dans le Grand Lomé. Mais dans la région de la Kara, c'était Madame Kassa Traoré qui a fait le tour d'établissement au nom du gouvernement et a parcouru toutes les préfectures, Kosa, Doufelgou, Assoli et même Dankpen. Dans les plateaux, d'abord dans les plateaux S, c'était Madame Yawa Kuigan et Kokou Tengue. Dans les plateaux ouest, c'est Madame Anakoma, Apedo Anakoma, à Jovi. Et puis, dans la région des Savanes, c'était les ministres Yark, ministre d'État Yark, et Tchédé Issa. Montchosso, c'est la première fois que pour une rentrée scolaire, le gouvernement envoie une bonne partie des ministres sur le terrain. Alors, quelle a été ta réaction en découvrant ça hier?
Mais déjà, si je ne me trompe, peut-être pour rectifier les choses, l'année dernière, c'était, en tout cas, la même chose était visible.
Déjà, à la rentrée,
il y a un an, la même, plusieurs membres du gouvernement étaient envoyés sur le terrain, histoire de constater l'effectivité de la reprise. Mais mon humble avis est que des ministres devant des élèves, ça peut donner une certaine force, ça peut motiver des élèves, parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on pense d'un poste ministériel, un poste ministériel, c'est quand même le summum, et je crois que le rêve de beaucoup d'élèves, le rêve de beaucoup de parents, c'est éventuellement de voir un beau jour leur progéniture, leurs enfants finir ministre, pourquoi pas. C'est quand même un poste, c'est quand même un certain summum, hein, même si c'est pas le summum des summums, c'est quand même, oui, et c'est, on peut comprendre même d'ailleurs pourquoi c'est recherché. Et donc, des membres du gouvernement comme ça, devant des élèves, il y a de quoi booster, il y a de quoi motiver des élèves, leur donner, en tout cas, peut-être l'énergie qu'il faut pour bien entamer donc la rentrée scolaire, et rester serein. Par ailleurs, des membres du gouvernement envoyés comme des missiles dominici devant des élèves, c'est aussi peut-être pour passer un message très très fort aux enseignants, parce que je crois que depuis l'année dernière, on a constaté quand même une certaine accalmie comparée à 3, 4, 5 ans où les années scolaires étaient successivement marquées par beaucoup de mouvements. Je crois que depuis l'année dernière, du moins, on assiste à une certaine accalmie, et que des ministres, à la fois devant des enseignants, et devant des élèves, oui, c'est peut-être aussi un message très fort. C'est donc un message.
Un message aussi, que le gouvernement attache du prix au bon déroulement
de l'année scolaire qui s'ouvre ainsi.
Merci. Alors, avant que les ministres ne parcourent le pays, hier, déjà la veille, hein, le ministre Kokoroko était à la TVT et il s'était longuement expliqué sur le schéma de l'année scolaire. Il est revenu sur ces fameuses 10 priorités qu'il a expliquées, commentées. C'est ce que Togo Matin nous rappelle ici aujourd'hui, quand il écrit « Le système éducatif change et changera ». C'est ce que Kokoroko a dit et qu'il avait beaucoup expliqué. Mais Isidore Akolo, un peu comme l'écrit le médium, le gouvernement, lui, se sent serein, il se dit serein avec les mesures qu'il a prises, les messages qu'il a fait envoyer sur le terrain. Mais est-ce que les parents le sont tout autant?
Avant de répondre à ta question, permettez que je puisse rebondir sur ce que j'appelle un folklore du gouvernement en dépêchant des sommités pour aller constater l'effectivité d'une rentrée scolaire.
Je rappelle que la région maritime, il y avait une équipe de ministres conduite par le ministre d'État, Kodjo Adeje aussi.
Et quel serait le rôle des inspecteurs?
Des directeurs régionaux.
Des directeurs régionaux.
Bon, on les a vus.
Non, arrêtons ces folklore-là. Non, que chacun joue sa partition. Moi, j'ai l'impression que, bon, c'est faire ombrage ou bien peut-être c'est du marketing politique qu'on est en train de faire. Et pour vanter les mérites, à chaque fois, vous savez, les discours vont se tenir là-bas, peut-être j'ai pas suivi, mais certainement, on dira que sur instruction du chef de l'État et le leadership du chef de l'État, mais arrêtons ces choses-là. On a créé les ministères, les gens, leur portefeuille, que chacun joue sa partition. Non, je n'ai vu ça nulle part. C'est au Togo qu'on invente des choses qui ne tiennent pas la route.
Et à part cet état d'âme, pour revenir sur la rentrée dans son ensemble.
Oui, sur la rentrée, ça a été effectif, c'était bon. J'ai suivi Kokoroko et dans ses 10, en expliquant les 10 priorités, c'était une très bonne chose, mais c'est leur effectivité que moi je voulais voir. Puisque quand moi j'ai fait un petit tour, Mais vous savez, on a fermé pratiquement 300 établissements scolaires privés.
Mais certaines de ces écoles-là ont quand même fait amende honorable et ont été réouvertes.
Oui.
Seulement, le petit hic, c'est que le gouvernement, disons le ministère, n'a pas publié
la liste des écoles qui
ont été réadmises.
Oui, si.
Ça a été fait.
Ça a été fait. Donc, ça a été fait auparavant. Mais
actualisé.
Oui, oui.
Combien, okay. Donc, j'avoue mon ignorance sur ce sujet.
Combien sont-elles? Le problème demeure. Le problème d'accueil, des infrastructures d'accueil demeure. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'élèves qui n'ont pas pu accéder à leur établissement.
Oui, un peu la preuve, hein, au lycée de Sagbado, par exemple, certains des élèves vont à l'école le matin et d'autres l'après-midi. Alors, la question qu'on peut se poser, est-ce que tous les élèves du lycée de Sagbado, comme de tous les établissements concernés, est-ce que tous ces élèves-là peuvent faire le volume horaire minimal exigé?
Non seulement le volume horaire, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à l'éducation?
Oui,
on nous parle de 3 millions.
Non, c'est ce qu'on fait certains le matin et d'autres l'après-midi.
Mais arrêtons avec cette histoire. C'est Agboubli qui avait inventé ces choses-là. Vous vous souvenez d'un lycée Agboubli que vous avez créé dans les années 2000 et qui n'ont pas pu tenir. On changeait les sujets et le matin vous venez faire les cours et l'après-midi peut-être vous venez faire les cours ou les lycées qu'on a implantés comme ça. Là. Non. Pokoloko est en train de faire un travail. De fourmis,
oui.
Il faut qu'on le laisse oui. continuer.
Non, lui-même est conscient
de le laisse continuer.
Il a annoncé.
Pourquoi ne pas menacer à mon
homme
Non, moi je
nouveau salle de nouvelles salles.
Oui,
les besoins ne sont pas encore totalement satisfaits.
Oui, qu'on puisse mettre les moyens pour créer. Et même quand on a les moyens, est-ce qu'il y a encore des sites pour pouvoir abriter ces infrastructures?
Si. Non.
Surtout les moyens, on va trouver les
sites. Mais écoutez, le problème que pose Isidore Akolor est un problème qui saute aux yeux depuis plusieurs années. Le manque, que ce soit dans le domaine du ressources humaines, que ce soit dans le domaine des infrastructures, est un manque réel. C'est d'ailleurs par rapport à ce vide, justement, que beaucoup d'écoles, beaucoup d'initiatives privées ont été prises ci et là parce que la ville ou nos villes du moins grandissent sérieusement au fil des années
de façon anarchique.
Et partout il y a besoin naturellement, partout il y a vide parce que je ne vois aucun parent qui puisse aisément accepter d'envoyer un enfant parcourir 10, 15 kilomètres, 20 kilomètres pour aller se faire former. À la limite, c'est très très difficile. Je crois que dans les 10 priorités, expliquées et expliquées par le professeur Dodi Kokoroko le dimanche dernier sur les ondes de la télévision nationale, lui il a été question justement de ces ressources humaines. Mais en tout cas, il ne nous revient pas de détailler. Je crois qu'ils ont leurs recettes et nous espérons vivement quand même que les recettes en question ici ne sont pas que des recettes politique, parce qu'il y a un réel vide. Depuis plusieurs années, dans la plupart des écoles publiques, mais des élèves ont commencé par partager les bancs à 3 ou à 4 parfois.
Mm-hmm.
C'est un constat réel. Hein? Et je crois qu'aujourd'hui, prendre la décision, quand Isidore Akolor dit que Kokoroko fait de son mieux, oui, nous sommes tous d'accord. Et je ne crois pas que M. Kokoroko soit pour le moment peut-être...
fatigué.
ou qu'il y ait quelques épées de Damoclès suspendues sur la tête de Monsieur Kokoroko, à la tête de ce ministre. Mais il y a quand même énormément de. Et ça, on est tous toujours d'accord à dire que mais gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir. Mmh. Mais comment est-ce que aussi on peut expliquer que face, par exemple, à la situation des intempéries que nous connaissons aujourd'hui, certains élèves aussi ne peuvent pas normalement accéder à leur lieu de formation.
Voilà.
Beaucoup de questions se posent et nous espérons que, à travers les 10 priorités, en tout cas les 10 priorités qui me semblent quand même des priorités très ambitieuses, il me semble, et à travers ces 10 priorités, si les 10 priorités sont réellement soldées, mais c'est qu'on aura réglé beaucoup de problèmes.
Merci. Il y a encore beaucoup de besoins sur le terrain. Vivement que le gouvernement mobilise des moyens pour les satisfaire d'année en année. La page culture à présent, malheureusement, notre ami Eric Johnson ne pourra pas être avec nous pour commenter les articles que j'ai tirés de son journal L'Union, mais on va évoquer quand même ces articles-là. Il s'agit d'abord d'un film documentaire sur le Togo allemand, réalisé par le cinéaste Jürgen Ellinghaus et qui sera projeté en avant-première en octobre au Festival international de films de Leipzig. Ce sera en Allemagne. Peut-être
dommage
que,
pour nous. Dommage pour nous.
Peut-être que Actu Express et Togo Matin vont dépêcher des reporters à Leipzig pour nous faire pour nous faire des reportages. Le deuxième sujet, il s'agit d'une exposition de peinture et performance artistique. Ce sera au Goethe Institut ici à Lomé. Il s'agit donc des œuvres de deux dames, à savoir Hermione Iris Unkarin, alias Hermiris 97, et de Anne-Marie Aklogan, qui ont réalisé des œuvres sur la vie des femmes artistes pendant la COVID-19. Qu'est-ce que les femmes, pendant ce moment où nous étions bloqués à la maison, qu'est-ce que les femmes artistes étaient inspirées et qu'est-ce qu'elles faisaient? Donc, on passera au Goethe-Institut pour visiter cette exposition. Le troisième sujet, c'est un concert de rap qui aura lieu le 30 décembre, samedi, sur la scène de l'IFT. Alors, les artistes s'appellent les Gbevou Conscients. Bon, toi, tu parles, Eve ou Mina? Alors, les Gbevou Conscients, il s'agit des slameurs Menteur Ambulant et Jeff Eusebio. Donc, c'est eux qui sont constitués dans ce groupe-là, les Gbevou Conscients, qui vont prester sur la scène de l'IFT, Institut français du Togo, le 30 décembre. Et ils vont parler de déni, d'équité, de guerre de classe, du rapport de l'homme à l'argent et du conflit de génération. Voilà, on ira regarder et voir les Gbevou Conscients à l'Institut français le samedi. Mon Dieu, ça va?
Mais c'est des artistes, mais il y a quand même une chose sur laquelle on peut s'attarder, c'est déjà la dénomination même du groupe. Gbevou Conscients, pour traduire littéralement, pour dire des voyous, enfin entre guillemets, des voyous conscients, je sais pas, mais c'est des artistes, et en tant que tels, je crois qu'ils ont entre guillemets une certaine autorisation pour donc se donner des dénominations qui appellent ou qui attirent attention. Mais on en a connu un peu partout dans le monde. Et le surnom du célèbre Tupac Amaru Thiakur, c'était, il se faisait appeler des Out of Law, il fait on hors la loi. Mais il y a plusieurs artistes comme ça qui trouvent, qui ont toujours trouvé des dénominations qui choquent, qui surprennent.
Tu le sais bien, les artistes ont toujours cette particularité d'innover, d'oser, quitte à être perçus comme évoluant un peu en marge des certitudes et des habitudes.
Évidemment, on ne peut pas leur reprocher. Et c'est une innovation qu'ils ont trouvée. Et, mais quand vous parlez de rappeur et après j'entends slammer, c'est deux choses carrément différentes.
Mais qui peuvent se compléter.
Qui peuvent se compléter.
L'un peut évoluer vers l'autre.
Oui, mais le rap, dans son essence, c'est pour dénoncer. Ils sont plus dans la dénonciation et autres, alors que les slammeurs.
Les slammeurs en font autant.
Ils en font autant, mais c'est plus lyrique. Et
c'est des poètes de la rue.
Les flots ne sont pas les mêmes. Et quand on parle de... Vous parlez de Gangsta Paradise, le paradis des gangsters. Vous
voyez, a priori, ça peut choquer.
Ça peut choquer. Non, c'est pour attirer, c'est pour capter l'attention. Mais quand je vois... Bon, peut-être j'aurai l'occasion d'aller voir ce qu'ils vont faire, leurs prestations.
Ce sera le 30.
Et moi, je voulais placer une doléance peut-être par toi, pour que Goethe Institute puisse, avant l'avant-première de ce film-là, peut ramener ça au Togo et l'époque allemande.
Ah ah, donc, si c'est, okay, c'est une doléance qu'on peut relayer, hein, à savoir, lorsque le film documentaire sur, après que le film documentaire sur le Togo allemand aura été projeté au festival de Leipzig, que le Goethe Institut fasse en sorte
qu'on puisse voir aussi au Togo,
de le ramener ici.
Ça parle de nous,
n'est-ce pas?
Oui, oui, c'est
important. Eh bien, mais on peut formuler la même demande également au ministère de la Culture.
Oui, oui, pourquoi pas.
L'un des deux.
L'un des deux, et au ministère des Affaires étrangères.
Ok, on a formé des délégations comme le gouvernement hier. Moi, j'irai plaider au Goethe Institut. Mon Tchosso va aller
à l'Institut français.
Non, au ministère de la Culture. Et puis, Isidore va aller au ministère des Affaires étrangères auprès de Robert Doucet.
À quel titre?
En tant qu'émissaire du club de la presse. Okay. Alors, Robert Doucet, justement, nous nous tournons vers lui parce qu'il a été en quelque sorte l'une des grandes vedettes à la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Quand c'est lui qui a représenté le Togo, il a prononcé ce discours qui ne laisse pas indifférent, ce discours qui fait l'objet de commentaires ici et là. Chacun s'y adonne, les médias, les réseaux sociaux, des personnalités. Ce matin, j'ai écouté par exemple le doyen, pour ne pas dire le vieux, Maître Sachavon, qui a consacré une vingtaine de minutes à ce discours. Montesson, ton journal en parle hier. Quand tu écris que le professeur Robert Doucet a fait le constat d'un monde malade, discours qui fait l'objet de commentaires.
Bah, le chef de la diplomatie togolaise, de toute façon, je crois que c'est l'une des voies dans le milieu diplomatique en Afrique depuis quelques années. C'est l'une des voies qui porte sérieusement. Il a pris l'habitude de signer des tribunes. Parfois vitriol, surtout face à ce déséquilibre, à ce grand déséquilibre que nous vivons, et qui fait que notre continent, qui fait que nous autres, et nous sommes appelés à subir soit des institutions qui ont été instituées par un Occident triomphant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Mais nous croyons personnellement que l'actualité politique, tout le vent fort politique qui souffle un peu partout sur le continent africain aujourd'hui, lui donne raison. Et il a encore démontré à cette occasion-là, l'occasion donc de cette Assemblée générale, en cours donc à New York au siège des Nations Unies. Robert Doucet n'a pas du tout été tendre. Nous sommes fatigués. Mm-hmm. Revenu plusieurs fois au début de ses propos comme en tout cas ou même
à la fin de son speech.
De face comme une forme de refrain, hein, comme une forme de refrain tout le long de son propos, oui. Et ce discours fait objet de beaucoup de commentaires, tu le dis, mais nous sommes tout à fait du côté, nous épousons carrément l'essence même de ce discours, qu'il est temps quand même que le monde se renouvelle et que surtout qu'il faut travailler à une forme d'équilibre aujourd'hui. Mm-hmm. Il est très très important, sinon tout ce que nous vivons, tout ce que nous voyons un peu partout, les dénonciations par ici, et d'ailleurs même au sein des Nations Unies, beaucoup de gens montent au créneau pour demander justement que le droit de veto puisse être revu, etc., etc. Mais il est vraiment temps, hein. Je suis bien tenté de citer des portions de son discours, mais c'est pas fait. Donc le discours,
le discours un peu partout circule abondamment
sur les réseaux sociaux. À l'endroit des Togolais, malheureusement, qui s'inscrivent en porte-à-faux contre ce discours, moi, ça m'attriste. sa matrice de constat.
Non, mon cher, il faut laisser la liberté à chacun d'apprécier le discours comme il entend.
Mais vous savez que tous les récents événements qui se déroulent sur le continent montrent clairement que la diplomatie togolaise a finalement raison à bien des égards. Ça se voit aujourd'hui. En tout cas, ce non-alignement choisi que le Togo assume donne raison au Togo aujourd'hui à bien des égards.
Merci. Et alors, Isidore, dans son discours, Robert Doucet est revenu sur la politique de paix et de coexistence pacifique que le Togo adopte et pratique. Il s'en est pris à ce qu'on peut appeler le paternalisme arrogant et condescendant de l'Occident. Il a parlé de la volonté du Togo de multiplier et de varier ses partenariats, mais il a également dit que le Togo n'a jamais fait la guerre à personne et d'autres propos. Et chacun, à l'aune de sa conscience, retient et analyse tel ou tel autre aspect.
Non, je salue le courage du professeur Robert Doucet qui a laissé carrément sa casquette de diplomate et a parlé en des termes, je dirais, crus. Peut-être c'est l'air du temps. Il n'est pas le seul. Vous avez écouté ce que le représentant du Mali et du Burkina. Donc c'est l'air du temps.
J'ai écouté également le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov.
Oui.
Vraiment, les mots ont volé bien haut.
Donc je pense que c'est l'air du temps. Et moi, j'ai aimé ce que j'ai aimé. Peut-être demain, je suis au bouclage. Hier, je n'ai pas pu boucler. Mais j'ai parcouru le discours, j'étais très impressionné par la liberté de ton qu'il a eu. Et je me dis que bon, peut-être c'est le contexte qui s'y prêtait. Sinon, ça aurait été 50 ans plus tôt, personne n'aurait prononcé ce genre de discours à la tribune des Nations Unies. Et ce que moi j'ai aimé, c'est le plaidoyer que tous ont eu à faire à l'endroit d'un nouvel ordre mondial pour qu'on puisse revoir les choses, qu'on puisse traiter les Africains d'égal à égal avec les Occidentaux. Mais les critiques qui sont portées, c'est que, comme le disait un adage de chez nous, il faut balayer devant sa maison avant d'aller balayer à la case, dans la rue. C'est tout ce qu'on lui reproche. Mais nous sommes fatigués. Nous aussi au Togo, nous sommes fatigués de certaines choses, de certains comportements.
Comme
mais comme la condescendance de certaines personnalités.
Et plus du monde occidental.
Et que les gens traitent des colons noirs qui oppriment leur population. C'est de ça qu'il est question. Donc voilà, peut-être ce discours peut porter. Et aujourd'hui, bon, je me dis que c'est devenu un slogan, que ça court tous les rues. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de quoi? Nous sommes fatigués de la mauvaise gestion de nos ressources. Nous sommes fatigués de la mauvaise gouvernance. Il faut qu'on ait aussi le courage de le dire. Voilà ce que nous ressentons en tant qu'Africains.
Merci.
Et après 60 ans. Nous sommes aussi fatigués.
Oui. Robert Doucet du Togo, Abdoulaye Diop du Mali, le ministre du Travail et de la Fonction publique du Burkina, avec un style vraiment très enflammé.
Doumbouya de la Guinée.
Oui, Doumbouya également de la Guinée. Tout ça c'est bien, mais ça nous rappelle, surtout ça rappelle à nos aînés qu'il y a près de 50 ans, un certain Mobutu Sese Seko Kuku Gbendou Ouazabanga tenait un discours d'une telle envolée à la tribune des Nations Unies. C'était déjà, je crois, en 73. Et ce discours également, tu te le rappelles, mon Choso?
73.
Mobutu aux Nations Unies.
73.
On n'a pas suivi en direct.
Oui, mais d'accord. Mais l'histoire nous lègue et nous transmet justement tous ces discours qui ont marqué quand même des époques. Et bon, ben, bien après Mobutu, vous savez, ce discours très historique et mémorable aussi de Thomas Sankara, mais ça, c'était à l'Union africaine.
Oui, à la tribune de l'OUA à l'époque.
Et donc, ce sont des discours qui ont pratiquement les mêmes verbes et les mêmes énergies, les mêmes forces, mais et les mêmes reproches. Parce que, de toute façon, il nous semble d'ailleurs personnellement que la réforme du Conseil de sécurité de paix soit discutée, soit sur le tapis aujourd'hui, c'est que, sérieusement, il y a péril en la demeure et l'Occident, sans doute, n'a pas vu venir, n'a pas anticipé sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, pris entre plusieurs marteaux, plusieurs enclumes, et l'Occident est obligé de marquer un recul pour travailler lui-même à cette forme d'équilibre-là. Sinon, c'est son avenir, justement, parce qu'avec la montée d'une grande puissance aujourd'hui comme la Russie, avec ses forces et ses faiblesses aussi, il est clair que l'Occident a vraiment à travailler à repartager les gâteaux. Sinon...
Merci, mais un auditeur qui réagit, qui dit que c'est très bien de s'en prendre aux Occidentaux, qu'on ne sait pas la France, mais Isidore, l'auditrice nous appelle à assumer nos responsabilités. Si on s'attaque à la France, si on s'attaque disons, au monde occidental, il va falloir qu'on assume demain, quand ces pays-là nous auront mis sur des listes noires en ceci et en cela, et surtout elle dit attendre des dirigeants africains qu'ils fassent beaucoup mieux, comme tu le disais, en termes d'une meilleure gouvernance, qu'ils fassent vraiment le bonheur inclusif de leur population en pratiquant la démocratie vraiment respectueuse des droits et libertés de leur peuple.
Évidemment, et l'exemple est là. Vous avez parlé tantôt de feu et Mobutu Sese Seko. J'étais en classe CM1 à l'époque.
En 73?
Oui.
C'est vrai que tu n'es pas né.
Mais on avait applaudi à rompre les phalanges. Mais après, qu'est-ce qui nous a servi? Il est devenu, un préfet, des Occidentaux. Et il a profité longuement de la guerre froide. C'est sur ça qu'il a, il a assis son pouvoir. Et nous ne voulons pas qu'on puisse encore revivre, c'est simagré, excusez-moi les termes, parce que c'est l'air des temps, chacun monte son créneau pour dire que, mais après, derrière, qu'est-ce qui se cache? C'est la grande question que nous devons nous poser.
Et nous allons chercher à regarder derrière le rideau. Alors, revenons maintenant pour terminer chez nous ici, sur le terrain politique. Et ce titre du journal Vision d'Afrique, Commission électorale nationale indépendante, processus électoraux abandonné en plein vol ou recul. Montessor, tu te rappelles, il y a quelques temps, c'était à pas de charge que nous étions conviés au recensement électoral. L'information était tellement passée que les gens étaient tellement mobilisés que c'est la CENI finalement qui n'a pas pu enrôler tout le monde. Et depuis, on ne sent plus rien. La CENI ne dit absolument plus rien. Le gouvernement non plus. Alors qu'hier, par exemple, quand le régime de transition au Mali, qui a annoncé les élections présidentielles en février 2024, devant l'impossibilité de la tenue des élections, le gouvernement malien a informé l'opinion nationale et internationale que ce sera reporté, même s'il n'a pas précisé la nouvelle date. Mais chez nous ici, on nous a annoncé les élections législatives et régionales pour l'année 2023. Nous sommes aujourd'hui au 26 septembre et puis personne ne nous dit plus rien.
Mais de toute façon, je vais vous renvoyer à une édition datant de 2 ou 3 mois de Togo Matin où nous annoncions, sous forme d'interrogation, ce report. Nous titillons clairement probable renouvellement de la CENI vers un report des élections. Eh bien, je me rappelle très très bien quand même que ce titre même nous a valu beaucoup de colibés et beaucoup de piques. Il y a 2-3 mois, dans la mesure où les gens se... la tendance était de savoir, mais aucune date n'était annoncée. Mais comment est-ce qu'on peut parler de report? Mais sauf que oui, et tu l'as dit, il me semble qu'en début d'année, l'ex-ministre de l'administration territoriale, M. Padoa Boupressi l'avait annoncé clairement, que les élections auront bel et bien lieu cette année, si je ne me trompe, si ma mémoire est bonne.
D'autant plus que l'Assemblée nationale arrive à, bout de, à la fin de son mandat en décembre de l'année.
Exactement. Et ça, et donc, il était même annoncé que nous, nous assisterons ou de toute façon, nous passerons aux urnes pour les deux élections régionales pour parachever le processus de décentralisation et les élections législatives. Sauf que, problème, le grand problème, et ça, ça a été discuté entre-temps au cours de l'une des sessions donc, du CNAP, et du CNAP, si vous pouvez m'aider pour la définition d'ailleurs, le cadre permanent de concertation.
Le CPC.
Donc, mais, alors, la question était de savoir si il est clair que le mandat des membres de la CENI arrive clairement à expiration, mais que justement de savoir, et sachant justement que le renouvellement des membres de la CENI est généralement un processus très 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 long. Et d'ailleurs, nous sommes partis d'ailleurs de l'une
des sorties. Est-ce que le renouvellement de la CENI est encore d'actualité cette année?
Mais puisque justement, Maître Tchassona Traoré avait fait une sortie médiatique en disant que de toute façon, la majorité ne s'est pas complètement opposée. Ne s'est pas. Alors, prenons les choses avec beaucoup de relativité. Mm-hmm. Au cours des discussions, donc à cette session du cadre permanent, la majorité n'était pas totalement opposé face donc à cette demande de renouvellement.
Donc, Tassona du MCD, qui n'était pas de l'opposition, avait demandé le renouvellement de la CENI, des membres de la CENI.
Non, il a révélé que plusieurs partis de l'opposition ont posé le problème au cours donc de cette session.
Au CPDC.
Et
au CPC.
Non, c'est CPDC. Cadre permanent de dialogue et de concertation.
Ah, et bah, oui. La majorité, donc le parti au pouvoir, ne s'est pas totalement. Alors, donc, je relativise. Ne s'est pas totalement opposé. Donc, à partir donc, de cette sortie médiatique, nous, donc, il y avait quand même des interrogations qui émergeaient.
Oui.
D'où nous nous sommes demandé si on assistait aujourd'hui à 3 mois de la fin, à 3 mois de la fin de l'année 2023. Et il nous semble que on ne voit pas réellement, ou on ne sent pas, en tout cas, l'organisation d'une ou des élections cette année.
Se tenir. Eh bien, on peut comprendre que les élections soient reportées, comme ce le fut en 2012.
À cette époque, il y avait une crise.
Il y avait une crise qui avait conduit au glissement du calendrier. Mais cette année 2023, en fait, moi, je ne vois aucune crise politique au Togo. Qu'est-ce qui peut expliquer que le gouvernement a annoncé ne puisse pas être fait? Et puis surtout qu'on ne nous dise rien, ni au gouvernement, ni à la CENI, même les partis politiques, donc on est un peu le temps, eux aussi, on les cherche, on ne trouve pas.
Non, ça, les partis politiques d'opposition n'ont rien à cirer dans un calendrier que la CENI devait annoncer. C'est la CENI qui est l'organe de gestion des élections.
Oui.
Et on parle de CENI, commission électorale nationale indépendante. Donc l'indépendance de cet organe est mise en cause. Vous avez passé au recensement sans avoir un calendrier. Mais ça se pose beaucoup de questions. Aujourd'hui, ceux qui sont en âge de voter, comment ils vont faire? Aurait-il une révision de la liste? Après un recensement, ça n'a pas de sens. Nous avons au moins une petite notion en matière d'élection. Ce n'est pas normal ce qui se passe au Togo. Et tout porte à croire que c'était bien ficelé. Hein. Et pour l'organisation des élections régionales, bon, on peut relever ça au calendrier grec. Mais le revenement des députés, mais c'est un calendrier républicain qu'il faut respecter. Mais je suis au regret de constater qu'ils se sont entendus, hein.
Qui ils?
Ah mais, nos gouvernants, ils ont modifié la loi électorale.
Ah bon?
Ah oui. Ils ont modifié aussi la constitution.
Oui, ça c'est depuis.
Oui, mais
quand il y a un article qui dit que les institutions, les membres des institutions restent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction de leur, disons,
remplaçant. Avant, c'était seulement pour la présidente de la République. Aujourd'hui, ils se sont entendus, ils l'ont élargi aux députés, ce qui suppose qu'ils peuvent rester éternellement là-bas. Et c'est basta.
Eh bien...
C'est ça, c'est, je suis au regret de le dire.
Nous sommes au 26 septembre, peut-être que les choses peuvent évoluer d'ici là, mais c'est ce vide-là, et ce blackout total...
Ça ne fait pas sérieux.
Qui nous interroge.
Je crois que le cadre permanent de dialogue reste toujours d'actualité, reste...
Mais le CPDC ne supprime pas...
Non, c'est pas ce que je veux dire.
Oui.
Et je crois quand même que... Mais rappelons-nous, à l'initiative de Jean-Pierre, de Monsieur Jean-Pierre Fabre, alors, une session de... ou plusieurs sessions de CPDC ont eu lieu. Je crois que dans... face à ce problème... Oui,
les partis politiques
peuvent se saisir,
peuvent demander que la question soit discutée.
Combien de fois l'exercice n'a pas été fait et que les conclusions restent dans les tiroirs.
C'est ça le nœud du problème. Nous rejoignons les auditeurs qui se
passionnent. Les conclusions sont restées dans les tiroirs.
Le plaisir pour l'acquérir. Écoutez Canal FM 93.5.
Vous nous avez écouté sur la journée porte ouverte qu'organise le réseau des ONG internationales ici au Togo, ce sera le jeudi prochain. Nous avons parlé de quelques articles de culture et des arts. Nous sommes revenus sur la rentrée scolaire 2023-2024. Et puis on a fini avec l'adresse de Robert Doucet à la tribune des Nations Unies. Et puis ce flou qu'entretiennent et le gouvernement et la CENI et toute la classe politique sur l'opportunité de tenir les élections cette année 2023. À présent, la parole est à vous.
Oui.
Oui, bonjour.
Allô. Oui, bonjour.
Oui, Pélé.
Oui, nous saluons le plateau.
Nous vous saluons aussi.
Bon, tout le gouvernement et la CENI, ils sont fatigués. Ça, c'est clair. On a, maintenant, je voudrais revenir à M. Sass qui disait qu'en 2010, il y avait crise et qu'aujourd'hui, on ne voit pas la crise. Non, il y a crise. Aux élections de 2022 2020, il y a crise. Lorsque deux gouvernements se chargent, ou bien deux, on entend au Togo qu'il y a un gouvernement de combat quelque part, dont celui dont qui est deuxième est en exil, il y a crise. Lorsqu'on on lendemain d'une élection, on va à un dialogue, c'est parce qu'il y a crise. On ne voit pas un dialogue pour le seul petit d'aller, c'est parce qu'il y a crise.
Mais Pélé,
oui,
est-ce que vous comparez la situation de post-électorale 2020 à celle que nous avions vécue au Togo en 2012?
Sauf qu'il y avait la rue aujourd'hui, il y a eu une certaine de résistance. Mm-hmm. C'est une question de résistance. C'est ça la différence. Maintenant, quand vous voyez que la CENI, qui est là, voudrait organiser une élection, alors qu'il faut aller à un recensement, donc le jour du recensement, toute la population est sortie, tout prend sa carte. Est-ce que si à ce recensement-là, le recensement électoral va dépasser le recensement général? Il y a crise. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a une crise qui est là, qui ne dit pas son nom.
Et c'est ce qui explique qu'on ne puisse pas tenir les élections en 2023?
Oui, parce qu'ils sont fatigués, ils sont fatigués.
Ok. Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? La personne est fatiguée. Qu'est-ce qu'il va dire? Quand vous envoyez quelqu'un de travail, là, qu'est-ce que vous dites? Je ne peux plus travailler, qu'est-ce qu'il va faire?
Merci Pélé. Pélé, il y a Pélé du Ballon Rond, il y a Pélé également du Club de la Presse. Le deuxième auditeur, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
C'est Gérard.
Gérard.
Oui.
Vous appelez d'où, s'il vous plaît?
Nikonakwe.
Nous vous écoutons.
Mais c'est ça, c'est tout le plateau.
Oui.
Moi, j'ai envie de prendre le discours du ministre. L'Afrique est blessée par les Africains. L'Afrique est détruite, est fatiguée par les Africains. Hein, l'Afrique est desservie par les Africains. Moi, je me dis, j'aurais vu un Robert Doucet en Batakali et qui aurait accompagné un interprète togolais pour occuper la cabine et expliquer dans sa langue à tous ces gens-là assis. Hein, et là, on saura vraiment que nous ne voulons plus d'exploitation en Afrique. Le français, nous en parlons très bien en Afrique. Et ça ne sert à rien de faire du show à cette tribune-là. Moi, j'attends dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pas que je suis pas optimiste. Mm-hmm. Je veux le changement de l'Afrique. Mais j'attends l'Africain dans 15 ans. Nous allons en parler comme depuis 90 que nous sommes en train de parler encore Togo. Je me rappelle de Sékou Touré, de tous ces gens-là. Deuxième sujet. Je voudrais dire tout simplement que, je pense, concernant le fait que les ministres sont sur tout le territoire en train d'aller
de constater la rentrée scolaire.
De constater la rentrée. Je ne pense pas que notre nouveau ou nouvelle ministre a raconté à M. Corolla le pourquoi il y a le gouvernement qui un peu partout. Moi, mon rêve, c'est que mon fils soit médecin. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous Togolais, ce que nous voyons de la politique, même en Afrique, beaucoup ne rêvent pas forcément qu'on soit ministre. C'est à l'époque où nous étions étudiants en Europe que les Européens nous demandent « Alors, vous allez rentrer dans votre pays pour être ministre, c'est ça ?» Et tout ça là, non, 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 non. S'il vous plaît. Que dans la tête des enfants, qu'ils soient de bons artisans, comme le chef de l'État l'a dit, on veut des paysans riches, des bons soudeurs, de bons, je ne sais quoi, de penser au ministre.
De bons journalistes, pourquoi pas.
Aujourd'hui, ça peut être ministre. Il n'a pas besoin d'être un journaliste, un ministre. Un artisan, vous faites bien votre travail, vous êtes passionné, vous êtes plus heureux d'être ministre.
Merci beaucoup, l'ami Gérard, depuis Nyokonakwe. Troisième auditeur.
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Comme la Johannes.
Ah, voilà. Oui. Commençons par chez nous avant d'aller chez les autres.
Progressivement, Johannes partira au profit de Comme la.
Et j'en serai vraiment. Nous en serons vraiment heureux.
J'en serai heureux que Innocent parte aussi progressivement.
Non, Kodjo t'était avant Innocent. Oui, allez-y, Comme la.
Écoutez, c'est bien que nos responsables politiques devant l'Assemblée de l'ONU disent des choses. Moi, j'ai dit que Kadhafi dénonçait ces choses il y a bien longtemps. Il y a bien longtemps que Kadhafi a commencé à dénoncer ces choses à l'Assemblée générale de l'ONU. Mais quand Sarkozy a envoyé ses soldats pour venir tuer ce président en Afrique, je n'ai vu aucun président africain qui est en train de se gosier, ou bien aucun ministre africain qui se gosie aujourd'hui à l'ONU réagit en ce temps-là.
Oui.
Voilà, donc qu'on ne fasse pas du buzz parce que c'est dans l'air du temps. J'espère que lorsque Dussé est allé dire ça à l'ONU, qu'il n'y a aucun conseiller français au-dessus du chef de l'État qui lui conseille ce que nous subissons aujourd'hui dans ce pays. Qu'il lui conseille de ne plus laisser l'opposition faire ses activités. Ça doit commencer par là. Merci Dieu.
Merci beaucoup, comme là, Johannes. Et il passe le témoin au suivant.
Et il passe le témoin à Messan Sylvain.
Messan Sylvain Agbayi.
Oui.
Ça commence à venir.
Oui. Bon, mais c'est ça, j'ai pas suivi l'émission, mais même quand ils sont fatigués, il faut que
revenons quand même en français pour tout.
Oui, c'est ce que je voudrais faire.
Mm-hmm.
Même s'ils sont fatigués, les tests, qu'est-ce que les tests disent? C'est ce que nous on veut. Il faut qu'ils nous respectent et respectent aussi nos tests que nous sommes donnés. Point barre, les élections, nous on veut les élections. Pour que d'autres viennent aux affaires.
Mm-hmm.
C'est point barre, il n'y a pas à discuter. Même s'ils sont fatigués, nous, il faut qu'on respecte nos tests.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que la journée porte ouverte du Rongito, le réseau des ONG internationales du Togo, ce sera le jeudi prochain. Cela pourrait aussi vous intéresser. Pourquoi pas le auditeur suivant, bonjour. Allô? Allô, l'ami en ligne, mais n'a pas le retour. Ok, vraiment désolé pour lui. Un autre qui vient, Thomas? Allô, bonjour.
Allô.
Oui.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, oui.
Oui, c'est comme mon frère qui vient de passer, qui n'a pas trop suivi, parce que le Badjadi va mouhaha. je suis malade, j'ai pas d'argent pour acheter les médicaments. Vous avez parlé de tout et de rien. Vous avez parlé des Nations Unies, c'est ça, non?
Oui, on a parlé des ONG internationales du Togo aussi.
Oui, puis le discours, là.
Oui, là.
Mais attendez. Mais c'est le monde à l'envers. Eux, ils vont nous dire aujourd'hui qu'ils sont fatigués de la de Gaulle qui les a installés en 63. Entre les gouvernements, là, et nous, qui fatiguent l'autre? Qui fatigue eux et les Badiadi, Mamhaha? Mais c'est eux qui nous fatiguent, non? 60 ans, ils ne veulent pas alterner, ils ne veulent pas faire la démocratie. Ils sont là-bas à nous torturer, à nous opprimer. Yo. C'est le monde à l'envers. C'est pour dire en gros que tout ça, la Nations Unies, machin, tout ça, là, c'est du faux. C'est du mensonge. Je l'ai toujours dit, c'est du mensonge. Et puis voilà.
Merci beaucoup, Essi. Merci beaucoup, Essi. Vivement que vous rétablissiez, que vous retrouvez votre bonne santé pour co-animer avec nous. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
C'est Armand.
Armand.
Bonjour le plateau.
Il n'y a pas un prénom qui nous rattache beaucoup plus au Togo? Armand quoi?
Armand Ouyao.
Armand Ouyao. Voilà, oui. Ça sonne mieux. Allez-y, Ouyao.
Oui, quelque part, il faut dire que ce discours est un discours vraiment courageux, clair et vraiment panafricain. Parce que depuis que moi je suis dans. Je suis la scène politique au Togo, je n'ai pas vu un discours aussi poignant et plus encore au niveau des Nations Unies.
Oh, déjà l'année passée, Robert Doucet avait commencé un peu de la même gamme. Hein?
Mais cette fois-ci, ça a été. Ton discours, il faut le reprendre et vous allez voir que ça a été plus poignant.
Oui.
Ça a vraiment. Chapeau bas.
Mm-hmm.
Il ne faut pas dire que les gens font du sudisme, mais c'est que quand on suit un peu la scène politique africaine, regardez un peu ce qui... D'abord, ça a commencé par le Mali. C'est venu au niveau du Burkina Faso et maintenant on est au Niger. Donc, que certains esprits puissent vraiment suivre ce qui se passe, parce que c'est historique. Aussi, j'aimerais d'abord souhaiter une très bonne rentrée à tous les élèves, écoliers et autres, à tous les acteurs de l'éducation,
oui.
Et leur souhaiter bon vent.
Merci. Merci, c'est gentil. Oui, Mokpokpo, comme il vit, espoir, aucun auditeur ne s'est encore intéressé à la journée porte ouverte du Rongito. Ça veut dire que vous avez encore du travail à faire pour nous inviter à venir nombreux à l'hôtel Sarakawa jeudi.
Oui, exactement. Je pense que nous allons continuer les communications autour de la journée. On espère que d'ici là, il y aura vraiment du monde.
Merci. Merci. Alors, tu nous rappelles encore quoi, le pourquoi et le comment de cette JPO?
Oui, le Rongito, c'est le réseau des ONG internationales au Togo. Et la JPO sera organisée le jeudi prochain à l'hôtel Sarakawa. Et c'est l'occasion pour Rongito de se faire découvrir par le grand public et aussi par tous les partenaires, tous ceux que nous avons invités pour cette occasion.
Merci, ce sera l'hôtel Sarakawa sous le thème « Un réseau, une synergie d'action pour le développement durable et inclusif au Togo ». Il y aura surtout ce panel qui va porter sur la contribution des ONG internationales à la feuille de route gouvernementale dans le contexte actuel. Quelle synergie d'action entre les acteurs de développement au Togo? Et puis la Croix-Rouge va nous enseigner également les gestes qui sauvent. Et puis par la suite, deux tables rondes, dont la première va porter sur la jeunesse, l'éducation, l'employabilité, le leadership et le développement. Et la seconde, un financement pour le développement au Togo à tous et défis. Bonne journée porte ouverte à toutes ces ONG internationales au Togo. Mon Tchosso, une minute.
Mais
une réaction peut-être à la droite de l'auditeur ou bien préciser une idée.
Juste peut-être, oui, pour remettre une petite chose à l'endroit. Pour dire que, j'ai pas retenu le nom de l'auditeur, mais l'auditeur qui m'a fait entre guillemets apostropher, pour dire que oui, dans la mesure où il n'existe aucune école au monde qui forme pour devenir ministre, hein, devenir ministre n'est pas véritablement une fin en soi. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais Et je reste convaincu quand même que quand on est doté, quand on est riche d'un certain parcours, d'une certaine expérience, et qu'on peut mettre au service de son pays, eh bien, devenir ministre est une forme de couronnement, dans la mesure d'ailleurs même où l'une des définitions même de, c'est que être ministre, c'est être un serviteur. Quand on est dans cette posture de serviteur, oui, c'est un couronnement, et on prend une certaine forme de fierté à servir, à rendre service. Mais non, oui, il me semble que c'est dans cette mesure peut-être que, en tant que serviteur, ces ministres ont pris le plaisir de descendre sur le terrain à l'occasion de la rentrée. Et ils l'ont fait avec beaucoup de plaisir. Moi, je leur tire chapeau bas. Mais je voudrais dédier mon carton de courage à tous ces élèves-là. Ils sont très, très nombreux. Ils sont très nombreux. Il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit d'ouvrir les cœurs pour comprendre justement qu'il existe beaucoup d'élèves qui, à l'occasion de cette rentrée, n'ont peut-être pas de quoi s'acheter des fournitures, n'ont peut-être pas des soutiens pour leur offrir des fournitures. Et donc, toutes mes pensées vont à ces élèves-là.
Et aux bonnes volontés qui se pencheraient, pourquoi pas, vers ces élèves qui demandent également à avoir l'instruction. Peut-être parmi eux, on peut trouver des artistes, de grands journalistes, de grands officiers, de grands PDG, de grands artisans, pourquoi pas de grands ministres demain. Isidore ?
Non, moi je serai la porte-voix de ces élèves qui sont, faute d'établissement, restés à la maison. Peut-être c'est des anonymes.
Bah, est-ce qu'il y en a vraiment des élèves qui restent à la maison parce qu'ils n'ont pas d'école où aller ?
Oui.
Ah bon?
Il y a une image qui circule de d'une école d'Avatar.
Non, non, depuis... je ne prends pas ça seul en compte. Allez dans les quartiers où on a fermé les établissements. Il y en a. Il y en a. Et les gens, les établissements qui sont là-bas ont profité pour augmenter les frais de décollage et autres. Donc, mon cri de détresse, c'est à leur endroit. Si le gouvernement peut faire quelque chose, bon, je ne sais pas si la messe n'est pas encore déjà dite, mais moi je voulais encore rebondir sur le discours courageux et audacieux du ministre Doucet. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, c'est de l'audace. Je me donne pour devoir de publier ça en intégralité. Je l'ai parcouru, c'est dense. Ceux qui le voient, c'est pas, tu ne peux pas lire ça sur ta tablette, c'est un peu long, hein. C'est des extraits que tu peux lire. Et on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Donc tu retiens l'audace.
L'audace et le plaidoyer en faveur d'un nouvel ordre mondial. Il faut lire à travers les lignes. Mais je ne rejette pas non plus le reproche qu'on lui fait. Comme je l'avais dit, l'adage de chez nous, balaye ta chambre avant d'aller balayer.
Charité bien ordonnée.
On commence par soi-même.
Merci.
Et c'est en cela que il y a des pics. Et malheureusement, nous vivons dans un environnement sociopolitique qui ne prête pas à ce qu'on dise que bon, le Togolais n'est pas fatigué de la gouvernance.
Merci, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'équipe du Club La Presse vous retrouve avec d'autres acteurs, pourquoi pas d'autres sujets. C'est ainsi au jour le jour. Prochain rendez-vous, ce sera demain mercredi 27 septembre. Par anticipation, joyeux anniversaire à une dame qui est née un 27 septembre. Elle m'écoute depuis un marché périphérique de Lomé. Donc demain mercredi nous serons au studio comme tous les jours que Dieu nous fera.
J'espère que madame est au courant, à l'écoute.
Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
marche pique tête en l'air. Qui fait du grand bruit vénère? Qui fait du grand bruit vénère? Jeunesse, une flamme insouciante. Génération pique tête en l'air. Qui fait du grand bruit vénère? Car tu as vendu cette vie. J'aime ma peau, j'aime ma des enfants, sonnez la trompette au pharaon, choisissant de jouer au paon, choisissant de jouer au paon, aux oreilles bouchées des enfants, sonnez la trompette au pharaon, choisissant de jouer au paon, que de mal faire au paon. J'aime ma peau, j'aime ma les efforts des parents vont à l'eau. Comment on perd de vrais anneaux? Qui n'est si mal d'un grand prix? Qui perd ses petits cachis? J'aime ma peau, j'aime ma. J'aime ma. J'aime ma. J'aime ma. La trompette au pharaon, choisissant de jouer au paon, choisissant de jouer au paon, aux oreilles bouchées des enfants, sonnez la trompette au pharaon, choisissant de jouer au paon, que de mal fait au pharaon. J'aime ma peau, j'aime ma. J'aime ma peau, j'aime ma.